Éclat de livre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Éclat de livre, l'émission pour croquer dans la littérature jeunesse sur les ondes de Radio G. Rendez-vous un dimanche sur deux à 17h pour évoquer autour d'un thème des livres pour enfants, petits et grands. Tu l'as probablement remarqué, mais depuis quelques jours, les vitrines des magasins sont envahies par des cœurs, rouges ou roses, en chocolat, en peluche ou en papier crépon. Tout ça, bien sûr, pour la Saint-Valentin. C'était ce vendredi 14 février, mais pas de panique. Si tu as oublié de déclarer ta flamme à ton amoureux ou à ta bien-aimée, je pense qu'il est encore temps. Parce qu'on peut se dire « je t'aime » tous les jours. Au programme de l'émission, que des histoires d'amour. Un rhinocéros au cœur tendre, une leçon de stratégie sentimentale, quelques remarques utiles pour bien vivre en couple, et la preuve que l'amour donne des ailes. Et tout de suite, les Beatles, All You Need Is Love.
Sing that can't be sung. Love. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Love. There's nothing you can make that can't be made. Love. No one you can save that can't be saved. Love. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy.
Ce rhinocéros-là est amoureux. Il est très très amoureux. Ça ne se voit pas bien. Parce que souvent les rhinocéros font la tête.
Si, ça se voit un peu à son œil. Un tout petit peu. Oui, un petit pli inhabituel, une lueur de joie. Mais franchement, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour montrer qu'on est amoureux. Il n'y a pas besoin de marcher sur la tête, de danser en tutu. Il n'y a pas besoin de faire du vélo sur une corde.
Oh non ! On peut très bien être amoureux sans que ça se voit.
Même si, en faisant bien attention, chez ce rhinocéros-là, on peut observer un léger déhanchement. Très léger, comme un début de pas de danse.
Nous sommes quelque part dans la savane. Une savane rose, au diapason des sentiments de ce pachyderme rêveur. Car il n'y a pas que les êtres humains qui tombent amoureux, comme le prouve cet album rigolo, au titre aussi imprononçable que joyeusement absurde.
Un rhinocéros amoureux pèse-t-il plus lourd qu'un rhinocéros tout court ?
De Alex Cusso, illustré par Nathalie Chou et édité chez Sarbacane.
Ce rhinocéros-là est amoureux, oui, mais de qui ? D'un colibri.
Un rhinocéros, c'est très gros, et un colibri, c'est tout petit. Et alors ? Il n'y a pas besoin de se ressembler pour tomber amoureux. Il n'y a pas besoin d'avoir des plumes partout pour aimer un colibri. De s'agiter dans tous les sens, d'attraper des mouches et de les manger. Il n'y a pas besoin de savoir voler.
Oh non, on peut très bien être amoureux en restant le même.
Sauf que ce rhinocéros-là penche à droite. Pas grand-chose, non. Mais n'empêche, il penche de plus en plus à droite.
L'amour est un sentiment bien étrange, n'est-ce pas ? Difficile de faire plus différent qu'un petit colibri raffiné et un rhinocéros d'apparence terne, tu ne trouves pas ? Et pourtant, l'oiseau trouve du charme au pachyderme, même si ce dernier n'arrive pas à se déclarer. C'est difficile de faire le premier pas dans ces cas-là. Comment peut-on être sûr que l'autre partage nos sentiments ? Souvent, par peur du ridicule ou d'être déçu, on préfère rester secret, comme ce rhinocéros qui se contente d'aimer en silence. Au risque, peut-être, de passer à côté d'une belle histoire d'amour. L'album évoque avec finesse ce que c'est que d'être amoureux, et le ton du texte plein d'humour fait son effet jusqu'à la chute, au sens propre comme au figuré. Les illustrations, tendres et colorées, rendent fort sympathique ce héros maladroit. Momo est amoureux du groupe Zut dans Éclat de livre.
Depuis quelques jours, on ne le reconnaît plus. Il est dans la lune, complètement perdu. Il est tout ahuri.
Pendant la récré, il reste comme un poisson. Il dit plus gros mots, il joue plus au ballon. Il a l'air tout gentil. Non mais t'as vu sa tête? Y'a quoi sous sa casquette? Qu'est-ce qu'il fait qu'il a l'air aussi bête? C'est parce que Momo est amoureux. Momo est amoureux. La maîtresse lui a posé une question.
Comment écrit-on le mot papillon?
Il a répondu
4. C'est pas ça.
Il dessine des fleurs sur ses cahiers, met des petits cœurs pleins sa dictée, colore son livre de maths. Non mais t'as vu sa tête? Y'a quoi sous sa casquette? Qu'est-ce qui fait qu'il a l'air aussi bête? C'est parce que Momo est amoureux. Momo est amoureux.
J'aimerais maintenant vous présenter Ernest. Il a 10 ans et il vit seul avec sa grand-mère. L'existence d'Ernest est parfaitement ennuyeuse, monotone et solitaire. Toujours le même trajet jusqu'à l'école, le même goûter, beaucoup de silence et de secrets, aucun suspense. En bref, l'enfer. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte, puisqu'il n'a jamais connu autre chose. Mais ça, c'était avant.
La vie d'Ernest n'avait pas de faille. Elle se répétait quotidiennement de la même façon. Il n'y avait pas de surprise. Jusqu'à ce lundi de début de novembre. La directrice fit irruption dans la salle de classe, poussant devant elle une nouvelle élève. « Je vous présente Victoire de Montardan. Elle fait désormais partie de votre classe. » Ernest eut un léger choc. Cette Victoire était différente des autres. Habillée un peu comme lui, blazer bleu marine et jupe plissée, chemisier strict. Un bandeau noir apprivoisait ses cheveux longs et noirs. Et comme la table d'à côté de lui était la seule libre, le maître la plaça là. Elle s'assit et lança à Ernest, à brûle-pourpoint et sans complexe, un franc bonjour. Il ne put faire autrement que de le lui rendre.
Le tourbillon Victoire est entré dans la vie d'Ernest. Et dorénavant, rien ne sera plus comme avant. La première chose qui bouscule Ernest, peu habitué aux marques d'affection, c'est l'assurance de la jeune fille, qui déclare à qui veut l'entendre son amour pour lui.
« Ernest, je l'aime, c'est tout. C'est comme ça, on n'y peut rien. » En plus, je le comprends et je veux son bonheur. Nous allons nous marier dans 13 ans, 8 mois et 3 jours. Je vous invite.
Et Ernest de lui répondre.
Le jour où on efface un jamais est un grand jour. Le jour où on efface au moins 3 jamais pour mettre à la place des premières fois est triplement grand.
L'amour donne des ailes. Dans le cas d'Ernest et Victoire, c'est bien plus que ça. La jeune fille, véritable étincelle de vie à l'optimisme contagieux, ouvre l'univers borné d'Ernest, l'obligeant à repousser les frontières de ses habitudes. À vivre, tout simplement.
Quand ils arrivèrent à la hauteur de son immeuble, Ernest voulut lâcher les livres et dire poliment « Je ne peux pas aller plus loin. » Aller au-delà de la frontière de son habitude lui donnait froid dans le dos. Sa grand-mère ne lui interdisait pas, mais ça faisait bizarre quand même. Il était étonné, en dépassant son pâté de maison, de respirer encore et que la foudre ne l'ait pas frappé. Sa grand-mère ne l'avait jamais puni, il n'y avait pas de quoi. Ernest passait d'étonnement en étonnement. Pas plus loin qu'à 300 mètres de la maison qui l'emmurait depuis 10 ans, chiens, enfants et autres espèces s'agitaient dans le vent et faisaient d'un coup vibrer l'esprit d'Ernest. Il se sentait pour la première fois audacieux, un chasseur urbain, un aventurier de son quartier, un héros presque.
Au-delà de cette aventure géographique, la rencontre avec Victoire, unique fille dans une famille de 13 garçons, pousse Ernest à interroger sa grand-mère sur ses parents. Et une fois l'armoire au secret fracturée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Voici un roman qui tisse habilement les genres, débutant comme une chronique sociale et se poursuivant comme une romance lumineuse, pour dénouer au final un mystère familial.
Lettre d'amour de 0 à 10
de Suzy Morgenstern est disponible à l'École des loisirs.
Ta reine, par Angèle.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Si de reine c'est pas trop accepté, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir.
As-tu remarqué que la plupart des contes se terminent toujours de la même façon ?
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Mais dans la vraie vie, c'est souvent après le coup de foudre que les ennuis commencent. Et c'est à cet « après » que s'intéresse le drôlatique album
de Laetitia Bourget, L'apprentissage amoureux. Illustré par Emmanuel Houdard, édité par Seuil Jeunesse. Ils furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et après ? Après, ils ont eu leur palais rien qu'à eux. Et ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Il n'y avait plus personne pour les en empêcher. Ils ont pu manger des sucreries toute la journée, traîner au lit le matin, écouter des histoires jusque très tard dans la nuit, inviter qui leur semblait bon pour chanter, danser et s'amuser tant qu'ils en avaient envie. Et ils ont fait des tas de découvertes ensemble.
C'est ensuite que ça se complique, quand la fougue et la liberté des premiers temps a fait long feu, que le quotidien s'installe et menace de tuer l'amour à petit feu.
Oui, mais... Comment ont-ils fait pour choisir la couleur de leur palais sans se disputer ? Et l'emplacement des choses aussi ? Et quand il ne restait qu'un seul cornet de leur glace préférée ?
Ou quand ils n'étaient pas d'accord sur le prénom de leurs futurs enfants ?
Comment le prince faisait-il pour rester charmant lorsqu'il lui arrivait de ronfler la nuit ?
Et la princesse, comment faisait-elle pour rester sublime quand de vilains boutons rouges apparaissaient sur son visage ?
Avec humour et lucidité, l'album énumère les épreuves qu'un couple doit surmonter pour durer. Il liste les petits défauts de l'une ou les maladresses de l'autre, avec lesquels il faut composer pour rester unis. Voici un livre étonnant de sagesse, qui se médite en famille autant qu'il se regarde, tant les illustrations, fourmillant de détails et de couleurs, font corps avec le texte. Au fil des pages, les deux enfants amoureux grandissent puis vieillissent, à l'image de leur couple qui a mûri sans se faner. Et puis, parfois, l'amour prend fin, brutalement. Ne reste qu'une profonde tristesse.
Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général.
Aujourd'hui, j'ai compris une chose importante. Le chagrin n'est pas en relief. Le chagrin ne prend pas de place. C'est le contraire. C'est une chose en moins, pas une chose en plus. Quand Paulus est parti, ça m'a fait comme un trou. Un trou de la taille de la forme d'une télévision, en plein milieu du ventre.
Changement de livre et changement d'univers. Nous voici avec Julia, 13 ans, qui se morfond depuis le départ de Paulus, son premier amour. Mais au fait... Qui est ce garçon ?
Paulus, c'est le plus beauus mecus du mondus et le plus faux aussi, parce qu'il est tombé amoureux de moi alors que je suis maigre avec des lunettes. et que normalement tout le monde me déteste. Je suis la première de la classe, je suis faillotte, j'ai tout pour déplaire. Paulus est donc fou, mais il est aussi drôle et charmant et il écrit de la poésie. Enfin, plus précisément, il recopie de la poésie. Et samedi, on avait rendez-vous pour la première fois en tête-à-tête sur un banc du square de Choisy. C'était, sans aucun doute possible, le rendez-vous le plus crucial de mon existence.
Mais voilà, parfois, les parents s'en mêlent. Ceux de Paulus ont décidé de déménager du jour au lendemain, c'est-à-dire justement le lendemain de ce rendez-vous capital. Johanna, la meilleure amie de Julia, essaie de lui remonter le moral. Pour cela, elle a élaboré une stratégie infaillible.
Tu es en colère contre Paulus ?
Oui, parce qu'il m'a plantée, parce que je suis trop fragile et gna gna gna, parce que je n'arrive pas à penser à autre chose, parce qu'il m'a peut-être menti.
Ok, c'est bon, a dit Johanna. Tu es en colère, c'est ça qui compte. Et tu veux te venger ?
Ça me faisait mal de l'avouer, mais c'est vrai. Si j'avais eu Paulus en face de moi, je lui aurais donné un coup de poing dans la mâchoire et une grande claque sur le nez. Un coup de pied dans le ventre et après, il serait tombé à terre et il aurait roulé dans la poussière. Et j'aurais roulé avec lui et...
Oh oui, tu m'écoutes ? A demandé Johanna.
Oui, oui, j'ai irrésistiblement envie de me venger.
Très bien. Donc, il faut que tu te venges, mais il faut aussi que Paulus t'aime. Soit qu'il se mette à t'aimer pour de bon, au cas où ton hypothèse sinistre serait la bonne, soit qu'il se mette à t'aimer encore plus.
Et comment je fais, moi, pour fabriquer tous ces sentiments ? Je ne suis pas une usine.
Tu fais ce que je te dis. Tu utilises le matériel, tu cesses de subir, tu recycles, tu crées et tu joins l'utile et le désagréable.
La solution que Johanna me proposait était simple. Il fallait que je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Ça, c'était l'utile. Ça peut paraître choquant, dit comme ça. Mais les avantages étaient si nombreux qu'ils auraient été difficiles, voire même impossibles, de ne pas tenter l'expérience. Primo, ce serait facile parce que j'avais le principal. L'inspiration, le mou dans les genoux et tout le reste. Deuxio, cela me permettrait de me venger de Paulus. Troisio, il serait jaloux et m'aimerait pour de bon. Quatrio, j'arrêterai ainsi de subir, je pourrai enfin recycler et créer. J'étais convaincue. Il n'en sait plus qu'à trouver le candidat idéal.
Plus facile à dire qu'à faire de tomber amoureux de quelqu'un qui ne nous plaît pas. Surtout quand il est anglais, qu'il ne comprend pas le français et qu'il ronfle au cinéma pendant la projection. Julia s'entête, répétant pour elle-même
« Je ne t'aime toujours pas, Paulus. »
Mais connais-tu l'expression « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » ? Il faudra tout un roman pour que Julia accepte de se rendre à l'évidence. Paulus est irremplaçable. Avec finesse et mordant, la romancière Agnès de Sarthe évoque les premiers chagrins d'amour, faisant mentir la chanson « Les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal ». Il est temps de nous quitter. Aujourd'hui, dans Éclat de livre, nous avons lu et beaucoup aimé Un rhinocéros amoureux pèse-t-il plus qu'un rhinocéros tout court ? Un album d'Alex Cousseau, illustré par Nathalie Chou, est disponible chez Sarbacane. À lire dès 3 ans. L'apprentissage amoureux, un album de Laetitia Bourget illustré par Emmanuel Houdard et édité par Le Seuil Jeunesse. À parcourir en famille à partir de 5 ans. Et enfin, deux romans. Lettre d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstern à partir de 9 ans. Et « Je ne t'aime toujours pas, Paulus » d'Agnès de Sarthe, dès 12 ans. Les deux sont édités par l'École des loisirs. Vous pouvez retrouver ces livres dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Si vous voulez réécouter l'émission, elle est en ligne sur le site internet de Radio G, www.radio-g.fr. Éclat de livre, une émission préparée et présentée par Margot avec la joyeuse collaboration de Solène, Ondine et Mao. Merci à elles.
Éclat de livre, c'est fini pour aujourd'hui.
Passez une très bonne semaine. On se retrouve dimanche dans 15 jours à 17h sur Radio G pour un nouveau goûter littéraire. Love is all you need.